Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Bion à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 7 août 2023. Nouveau sommet des dirigeants ouest-africains après l'expiration de leur ultimatum au Niger.
Nous allons défendre la patrie, même si nous allons mourir pour cette patrie. On est déterminés, on est engagés, on est prêts à le faire.
La population nigérienne se mobilise en comité de veille pour faire face à une éventuelle attaque. Reportage à suivre dans la partie magazine. Au Soudan, de violents combats opposent à nouveau l'armée et les paramilitaires à Khartoum. La population fuit la capitale. En Afrique du Sud, une grève des transports paralyse la ville du Cap. Réunion sur l'Ukraine en Arabie Saoudite. Moscou exige la capitulation de Kiev. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les dirigeants de la CEDEAO vont encore se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger, 2 semaines après un coup d'État et la fin dimanche de leur ultimatum exigeant le retour à l'ordre constitutionnel sous peine d'utiliser la force. À Niamey, la junte a fermé l'espace aérien nigérien. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après un communiqué de la CEDEAO, ces dirigeants vont se réunir de nouveau jeudi à Abuja, dimanche soir, peu avant la fin de l'ultimatum. Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé la fermeture de l'espace aérien de leur pays. Amadou Abdraman, membre du CNSP.
Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée.
Dans un autre communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie affirme qu'un prédéploiement pour la préparation de l'intervention militaire de la CEDEAO a été fait dans 2 pays d'Afrique centrale, sans préciser lesquels. Une intervention militaire immédiate pour établir le président Bazoum n'est pas envisagée à ce stade, selon une source proche de la CEDEAO. Samedi, les sénateurs du Nigeria qui partagent une frontière de 1500 km avec le Niger ont appelé le président Bola Tinubu à renforcer l'option diplomatique. L'Algérie, autre voisin du Niger, a émis des réserves. L'Allemagne et l'Italie se disent aussi favorables à une solution diplomatique. L'armée malienne a annoncé l'envoi à Niamey d'une délégation conjointe Mali-Burkina Faso pour témoigner de la solidarité des 2 pays au peuple frère du Niger et avec les auteurs du coup d'État.
Air France a annoncé la suspension de ses vols vers le Niger, mais aussi vers le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qui se sont dit prêts à soutenir militairement la junte nigérienne, au moins jusqu'au 11 août inclus. La compagnie française a prévenu que des temps de vol plus longs depuis et vers plusieurs destinations subsahariennes seront à prévoir. Au Mali, l'ex-rébellion Touareg dans le nord du pays a accusé lundi l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner d'avoir mené vendredi contre une de ses bases, une attaque dans laquelle 2 de ses hommes ont été tués. La coordination des mouvements de l'Azawad avait rapporté vendredi avoir été attaqué le même jour à Foïta, dans le nord, par des hommes armés à bord de 3 véhicules, sans préciser qui ils étaient. Elle a fustigé aujourd'hui un acte prémédité et conclu qu'il s'agit d'une remise en cause délibérée du cessez-le-feu et des arrangements sécuritaires conclus entre Bamako et les ex-rebelles. Toujours au Mali, 17 personnes, dont 5 chasseurs traditionnels d'oiseaux, ont été tués ce week-end près de Bandiagara, dans le centre du pays, au cours de ces 2 attaques attribuées à des terroristes, a indiqué le gouverneur de la région. Samedi, une première attaque s'est déroulée dans la commune de Bodio, faisant 15 morts et 3 blessés, dont 3 chasseurs. Le lendemain, une moto transportant 2 chasseurs a heurté une mine à proximité du même village. Les 2 occupants sont décédés immédiatement, dit le communiqué diffusé ce lundi. Au Soudan, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué Khartoum, la capitale. L'armée et les paramilitaires ont ordonné l'évacuation d'un quartier. Le point avec Eric Manirakiza.
À Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, des obus tombent sur les maisons, a affirmé un des habitants. À proximité, l'armée et les paramilitaires ont ordonné l'évacuation des civils du quartier d'Abou Rouf, décrété zone d'opération, d'après le comité de résistance locale, l'une des cellules qui organise l'entraide entre les habitants restés sur place. Dans ce quartier, l'armée a mené des frappes aériennes et tiré à l'artillerie sur le pont de Chambat, pour couper l'accès aux forces de soutien rapide qu'il utilise pour se ravitailler à Bari de l'autre côté du Nil. Selon des habitants de Wad Madani, à 200 km au sud de Khartoum, des quartiers densément peuplés sont le théâtre d'échanges de tirs à l'artillerie lourde. Selon l'OMS, 80% des hôpitaux sont hors service et ceux encore opérationnels sont souvent la cible d'attaques ou de pillages. Des pluies torrentielles dans l'État du Nord ont détruit plus de 460 maisons. Près de 4 mois après le début de cette guerre, un bilan précis du nombre de morts n'a jamais été établi.
En Afrique du Sud, les transports publics du Cap sont paralysés en raison d'une grève de taxis collectifs. La route de l'aéroport de cette grande ville est bloquée. Ce lundi, la police a recensé 2 morts en marge de ce mouvement. Michel Joseph.
Des milliers d'usagers se sont retrouvés coincés après cet arrêt de travail déclenché jeudi par les chauffeurs des minibus, le principal moyen de transport de millions de Sud-Africains. Le Conseil national sud-africain des taxis dénonce un nouveau règlement qui donne à la municipalité du Cap le pouvoir de saisir les véhicules pour des infractions telles que la conduite sans permis, le non-affichage des plaques d'immatriculation et la surcharge. La situation s'est envenimée après la saisie mardi de 15 minibus. Le Santaco a affirmé que 6 000 véhicules ont été saisis depuis le début de l'année et que face à cette situation, il n'avait pas eu d'autre option qu'un appel à la grève. Les négociations du week-end n'ont pas permis à débloquer la situation.
11 migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, sont morts et 44 autres sont portés disparus après un naufrage en Méditerranée au large du port de Sfax en Tunisie, et, ville épicentre de l'immigration clandestine. Leur bateau de fortune était parti à une date non déterminée d'une plage au nord de Sfax en face des îles Kakena. Au même moment, une source militaire marocaine faisait état de la découverte sur la route migratoire de l'Atlantique de 5 corps de migrants, tous sénégalais.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Seule la capitulation de Kiev mettra fin à l'offensive russe en Ukraine, a réaffirmé aujourd'hui Moscou, 2 jours après une réunion sur le conflit en Arabie Saoudite qui n'a pas permis d'avancer notable. John Lydon.
Nous sommes convaincus qu'un règlement véritablement global, durable et équitable n'est possible que si le régime de Kiev met fin aux hostilités et aux attentats terroristes, a déclaré Maria Sakharova, la porte-parole de la diplomatie russe. La nouvelle réalité territoriale dans l'Est et le Sud de l'Ukraine doivent être reconnues. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine doivent être assurées, a-t-elle encore réclamé, exigeant la confirmation des fondements originaux de la souveraineté de l'Ukraine, son statut neutre, non aligné et non nucléaire. Ces demandes, déjà formulées par Moscou au moment de lancer son offensive militaire en février 2022, ont été balayées par Kiev. L'Arabie Saoudite a accueilli il y a 2 jours à Jeddah une réunion sur l'Ukraine, invitant des délégations occidentales et des représentants des puissances émergentes proches de Moscou sans la présence de la Russie. Ces discussions n'ont abouti à aucune percée majeure. D'ailleurs, aucune déclaration finale n'a été publiée.
Joe Biden se rend à partir de ce lundi dans l'ouest des États-Unis pour vanter sa politique en matière d'environnement avec une première étape dans l'un des sites naturels les plus spectaculaires au monde, le Grand Canyon. Le président américain restera mardi en Arizona et se rendra mercredi au Nouveau-Mexique, 2 États riches en merveilles naturelles, mais aussi particulièrement ébranlés par les récentes vagues de chaleur extrême. Puis il ira jeudi en Utah pour un déplacement consacré à ce programme en faveur des vétérans. Les avocats de l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan tentent aujourd'hui de contester sa condamnation à 3 ans de prison pour corruption qui l'empêche de se présenter aux élections nationales. Imran Khan, qui souhaitait se présenter aux élections prévues d'ici la fin de l'année, après avoir été chassé du pouvoir par une motion de censure en avril 2022, a été condamné samedi par un tribunal et aussitôt arrêté à son domicile. Il a été transféré à la prison d'Attock, situé à environ 60 km d'Islamabad, où il n'a pas encore pu être vu par ses avocats. Et puis, la Russie va lancer vendredi son premier engin vers la Lune depuis 1976, a annoncé aujourd'hui l'agence spatiale russe Rosmos. Cosmos, qui peine depuis des décennies à mener ses propres projets. Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire de la Russie, intervient au moment où ce pays cherche à développer ses propres projets et à renforcer sa collaboration spatiale avec Pékin. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Mfa.
Au Niger, la capitale Niamey subit d'importants délestages depuis plusieurs jours, conséquence directe des sanctions de la CEDEAO après le putsch du 26 juillet. En temps normal, Niamey est déjà soumise à des coupures d'électricité régulières dues aux pannes sur le réseau du Nigeria où la société nigérienne d'électricité, Nigelec, seul fournisseur du pays, achète 70% de l'électricité qu'elle fournit au Niger, selon un rapport de 2022 de cette entreprise. Le président camerounais Paul Biya a ratifié le 1er août 2023 un accord relatif au service du transport aérien entre le Cameroun et l'Algérie qui ouvre la voie à de nouvelles liaisons aériennes entre les deux pays à l'effet de booster le tourisme et les échanges commerciaux. En 2021, selon investiraucameroun.com, l'Algérie a exporté vers le Cameroun 445 200 tonnes de marchandises et le Cameroun, lui, n'a exporté vers l'Algérie que 4 000 tonnes de marchandises. Au Zimbabwe, PowerTel Communications, filiale de la Zimbabwe Electricity Supply Authority, spécialisée dans la fourniture d'Internet par fibre optique, a annoncé un investissement de 570 millions de dollars dans l'extension de son réseau télécom au cours des 7 prochaines années. À en croire l'agence Ecofin, l'initiative devrait contribuer à améliorer la couverture de la connectivité à haut débit dans le pays.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'Afrique n'a plus qu'un seul représentant en huitième de finale du mondial féminin. Le Nigeria s'est incliné devant l'Angleterre.
Oui, les Super Falcons ont poussé les Anglaises, championnes d'Europe en titre, jusque dans leur dernier retranchement. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'Angleterre s'est finalement imposée au tir au but, 4 tirs réussis contre 2. Les Super Falcons sortent de la compétition sans atteindre les quarts de finale, comme au Mondial 1999, leur meilleure performance. L'Angleterre disputera son quart samedi contre la Colombie ou la Jamaïque. De son côté, l'Australie, pays co-organisateur du Mondial, s'est qualifiée en battant le Danemark 2-0. Avant le Nigeria, l'Afrique du Sud a été battue 2-0 par les Pays-Bas. L'Afrique a le regard tourné vers le choc de demain entre la France et le Maroc.
Ce huitième de finale France-Maroc est riche en symboles.
Oui, que de souvenirs communs entre Marocains et Français. Ce d'Hervé Renard, coach de l'équipe féminine de la France, ancien entraîneur de la sélection marocaine, qu'il a dirigé chez les hommes entre 2016 et 2019. Ce de Renald Pedros, le coach français des Marocaines, avec les six bleus qu'il a côtoyés durant ses deux saisons à la tête de Lyon de 2017 à 2019. Difficile de ne pas penser par ailleurs à la demi-finale France-Maroc du Mondial Qatari remportée 2-0 par la France il y a presque 8 mois chez les hommes. La défenseur des Bleus, Sakina Karchaoui, née en France de parents marocains, symbolise à elle seule cet environnement unique. On connaît la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France, assure-t-elle avant de conclure. Cela va être un match plein d'émotions.
Donald Trump s'en prend à la sélection américaine après son élimination.
Beaucoup de nos joueuses étaient ouvertement hostiles aux États-Unis. Aucune autre sélection ne s'est comportée de la sorte. C'est l'échec de la pensée woke, a estimé l'ancien président américain sur son propre site internet Truth Social, avant d'ironiser sur le tir au but manqué par l'ancienne Ballon d'Or Megan Rapinoe. D'un joli tir, Megan, championne du monde en 2015 et 2019 avec les États-Unis, l'ailier de 38 ans a joué un rôle clé dans le combat pour l'égalité des salaires entre les sélections féminines et masculines américaines et est une fervente défenseur de l'égalité raciale, des droits des femmes et de la communauté LGBT+. La femme du président américain Jill Biden a de son côté félicité les Américaines pour leur parcours.
Fin hier des 9e Jeux de la francophonie.
Kinshasa a vibré durant 10 jours de compétition qui, malgré beaucoup d'inquiétudes, se sont bien déroulées. Au terme de ces jeux culturels et sportifs, c'est le Maroc qui vient en tête du classement des médailles, avec 58 dont 23 en or devant la Roumanie et le Cameroun, qui s'est taillé la médaille d'or au football après sa victoire en finale 2-1 contre le Burkina Faso. Le basketball féminin est allé au Sénégal victorieux du Cameroun 78-54. En athlétisme chez les hommes, le 100 mètres a été remporté par le Camerounais Emmanuel Essémé. Dans la même épreuve, chez les dames, c'est l'Ivoirienne Mabundu Kone qui s'est imposée et sa compatriote Jessica Bailly a enlevé le 200 mètres.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écho du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Niger, pour faire face à une éventuelle intervention militaire de la force de la CEDEAO en vue de rétablir l'ordre constitutionnel, les putschistes ont lancé un appel à la mobilisation des populations. Les citoyens se constituent en bouclier à travers des comités de veille patriotique. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Dans leur logique de poursuivre la transition militaire, les autorités de fait du Niger ont indiqué ne pas céder aux menaces et autres intimidations d'où qu'elles viennent, à l'expiration de l'ultimatum à elles donné par la CEDEAO pour revenir à un ordre constitutionnel normal. Elles ont lancé un appel aux citoyens à la mobilisation dans la perspective d'une intervention militaire. Colonel-major Amadou Abdrahman.
Les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. À cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays, pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie.
Un appel visiblement entendu au sein de la population, les jeunes notamment.
Je crois que c'est un devoir pour tous les jeunes de répondre à l'appel du président, notamment parce que c'est un devoir pour les jeunes. C'est un devoir pour tout citoyen nigérien de soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parce que il est venu, l'objectif en réalité c'est de résoudre le problème qui plane sur le territoire national, qui est l'insécurité.
Les militaires, ils ont dit dans leur appel qu'eux, ils sont prêts à défendre la patrie, nous sommes prêts. Parce qu'il n'est plus question, j'ai eu à le dire, d'appartenance politique. C'est le Niger qu'il faut mettre devant. Nous allons défendre la patrie, même si nous allons mourir pour cette patrie. On est déterminés, on est engagés, on est prêts à le faire.
Je suis de la région de Telagueï, donc je sais ce qu'il en vaut. La situation est tellement grave parce que moi, ça fait depuis 2016, je n'ai pas mis pied au village compte tenu de la situation sécuritaire qui s'est beaucoup dégradée depuis une décennie. Et je crois que chaque Nigérien qui se soucie de qui est patriote, qui aime le Niger, devrait participer. C'est une obligation pour chaque Nigérien. C'est le lieu et c'est le moment pour tout Nigérien de sortir et d'accompagner cette manifestation, ce mouvement patriotique.
Déjà, avant l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des organisations de la société civile ont mis sur pied des comités dits de veille patriotique au niveau de certains ronds-points de la capitale Niamey. Michael Zodi fait partie des initiateurs.
Nous n'avons pas perdu la CEDEAO, ils le savent. Nos forces de défense et de sécurité n'ont pas perdu la CEDEAO. Et nous avons constaté que c'est la France qui est derrière pour pouvoir nous agresser. Et heureusement, nos autorités militaires ont pris la décision de demander à la France de partir. Les troupes françaises qui sont ici doivent partir. C'est à nous, peuple, de matérialiser ça. Ça veut dire que la mobilisation continue au niveau des ronds-points, surtout ronds-points escadrilles où se trouve la base militaire. Nous devrons nous mobiliser. Et c'est ça les brigades des 20 citoyens que nous avons mis en place. En matière de guerre, chaque citoyen est un soldat. Et nous tous, nous sommes des soldats.
Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'ultimatum de la CEDEAO aux putschistes nigériens a pris fin. Les délégations sillonnent les pays de la sous-région en attendant un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu jeudi prochain à Abuja. Dans cette affaire, les autorités maliennes affichent une position sans embâge de soutien au peuple frère du Niger. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Les regards tout au long du week-end dernier étaient tournés vers le Niger. Au moment où les militaires au pouvoir multipliaient de communiqués, le chef d'état-major de la CEDEAO terminait une réunion de 3 jours. Amadou Kouyaté, observateur malien, estime qu'il faut toujours privilégier le dialogue compte tenu de la situation sécuritaire au Sahel.
Je pense que ce qui prévaut dans la sous-région, précisément l'ultimatum donné par la CEDEAO, je pense que seul le dialogue est un issue favorable pour amener la paix dans la sous-région. Et ce que le Sahel vit déjà, il y a plus de 2 décennies, moi je précise très bien, il y a plus de 2 décennies, ce que le Sahel vit, ce cadre de terrorisme et de djihadisme Je pense que c'est l'union sacrée de ces États qui peut amener ça.
Les autorités de la transition malienne et celles du Burkina avaient menacé de combattre aux côtés des militaires nigériens en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. Une posture qui, selon Nde Ombotimbe, journaliste malien, s'explique par les enjeux sécuritaires communs aux trois pays.
Je crois que le Mali et le Burkina, ils sont dans leur logique, parce que le Niger fait directement frontière avec le Mali là, et le Burkina. Donc je crois que c'est de bonnes guerres. Donc c'est quand le Niger brûle, le Mali n'échappera pas, le Burkina n'échappera pas. Je crois que c'est une cause noble pour le Mali et le Burkina de s'associer, combattre aux douleurs du Niger. Parce que les trois pays sont pratiquement les frontières. Donc finalement, aucun pays ne peut échapper. Même par rapport aux terroristes, là, le Burkina, le Niger, le Mali sont plus attaqués. Donc vraiment, moi, je crois que c'est de bonnes guerres.
Si l'option militaire semble en attente pour Amadou Diko, citoyen malien, cela est une bonne chose, car pour lui, le dialogue est toujours possible en vue de trouver une issue favorable à cette crise.
L'intervention militaire, les conséquences sont très néfastes pour l'Afrique, pour Sahel. Et donc là, je crois qu'il faut passer par des négociations. Jusqu'à présent, les portes de négociations ne sont pas totalement fermées. Parce que même si on mène une guerre, bon, ça va aboutir à des négociations encore. Donc au lieu d'arriver là-bas, il faut commencer encore par là.
Ce lundi, une délégation de Haut-Gradé Malien et Burkinabé se sont rendues à Niamey après avoir reçu la visite de Salifou Moudi, numéro 2 de la junte nigérienne. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le coup d'État au Niger reste un dilemme pour les chefs d'État de la région ouest-africaine, dont la nouvelle direction tient à enraciner un nouvel ordre démocratique. Au Nigeria, les avis sont partagés sur une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le Nigérien Bolamé Tinubu, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, depuis le 9 juillet, fait face à un premier test qui l'a placé dans une situation délicate. Il a présidé un sommet d'urgence de la CEDEAO à Abuja qui s'est terminé par un certain nombre de sanctions et un ultimatum à la junte, lui donnant une semaine pour établir Mohamed Bazoum, le président élu du Niger. Dans le pays, on joue à la prudence. Sadiq Garba Shehu est colonel de l'armée de l'air à la retraite.
Il porte deux chapeaux. Premièrement, il est le chef actuel de CEDEAO. Il a les responsabilités là. Mais il est aussi le président du Nigeria. Donc il est autre chose. Quelquefois, malgré le fait que le CEDEAO a pris une décision, chaque pays va regarder à plus près dans cette décision de CEDEAO. C'est quoi qui est bon pour moi? C'est quoi qui n'est pas bon pour moi?
Au Nigeria, la détermination de Tinubu et de ses pairs de la sous-région pour trouver une solution à la situation au Niger est perçue comme une bonne intention, mais on s'inquiète de savoir si le bloc régional peut vraiment mettre sa menace à exécution dans le contexte actuel.
Je dirais que c'est triste parce que normalement, le président de la CEDEAO, qui est le président Bola Ahmed Tinubu, est censé gérer la situation calmement, y aller avec douceur et essayer de chercher à savoir quelle est la raison pour laquelle les militaires ont pris le pouvoir au Niger.
Je pense que les dirigeants de la CEDEAO sont trop pressés. Ils devraient prendre leur temps et penser aux conséquences de leur action. Vous savez, parce que ce coup d'État a une raison pour laquelle l'armée a pris le pouvoir.
Réunis à Abuja pour planifier l'intervention militaire au Niger, si la junte refusait de céder le pouvoir, les chefs d'État-major de la CEDEAO ont reconnu le fait que le coup d'État au Niger a mis en évidence la fragilité de la région et la nécessité d'un cadre de sécurité solide et proactif. Le major général Christopher Moussa est le chef de défense de l'armée nigériane.
Nous avons reconnu la nécessité d'une approche globale qui concerne la politique sécuritaire et les dimensions diplomatiques. Il est impératif que nous traduisions nos délibérations en actions concrètes qui traitent efficacement la crise et empêchent que ça se répète à l'avenir. La CEDEAO ne sera pas utilisée pour des coups d'État. La démocratie est ce que nous défendons et la démocratie est ce que nous soutiendrons.
Le Sénat nigérian souhaite pour le moment une résolution pacifique de la crise. Dans le nord du Nigeria, région natale de 7 puissants sénateurs, l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO suscite une angoisse perceptible. Tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine étape de la CEDEAO. Les chefs d'État de la région promettent d'explorer toutes les voies et qu'une intervention militaire ne serait qu'un dernier recours. Le président nigérian Bolamé Tinubu et président de la CEDEAO vient de convoquer un autre sommet extraordinaire des chefs d'État pour le 10 août. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La 15e édition de l'Assemblée générale des Nations unies des collégiens s'est tenue ici aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Maryland. Des jeunes venus du monde entier se sont donné rendez-vous à Old College pour des activités comme la formation en diplomatie, en STEM et en robotique. Un reportage de Blanche Sanou.
Samuela de la RDC, Sophie de l'Allemagne, Raela de Trinidad et Marcela de la Colombie sont quatre collégiennes qui ont passé leurs vacances scolaires dans le programme d'éducation et d'échange culturel soutenu par le Centre de l'UNESCO pour la paix. Le centre organise cette expérience depuis 15 ans avec la participation de plus de 5000 jeunes à travers le monde. Guy Joken est le directeur du Centre de l'UNESCO pour la paix.
Nous avons mis sur pied un programme justement. Il y a des jeunes qui arrivent ici. Certains vont faire une simulation des Nations Unies pour apprendre comment les décisions sont prises au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'UNESCO et tout ça. Okay? Et de l'autre part, il y a d'autres qui ont vraiment l'important de la science.
La journée commence pour Samuela. Après son petit déjeuner, elle rejoint la salle de conférence pour défendre ses idées et opinions avec ses pairs des autres pays.
Que la religion soit impartiale.
Samuela Biello représente l'Éthiopie dans cet exercice.
J'apprends comment les décisions se prennent, comment négocier, comment m'exprimer en public et surtout comment ça se passe au sein des grandes organisations comme l'UNESCO, l'Union africaine et l'Union européenne.
Âgés de 14 à 20 ans, certains participants, comme Raela Koumine, ont décidé de se familiariser avec les technologies de pointe comme les STEM.
Il fabrique des mains robotiques sous forme de prothèses pour les enfants qui n'en ont pas. Donc il les crée. Le formateur nous a montré comment reproduire la même chose, comment utiliser les câbles et faire le codage pour pouvoir fabriquer nos propres mains.
Sophie Thomas profite de son séjour pour explorer de nouvelles idées dans le domaine de la création, du changement climatique et des énergies renouvelables. Le projet de mon groupe porte sur la mode et l'accessibilité économique. Nous avons bossé sur un projet de costume à moindre coût pour un entretien d'embauche pour les étudiants à faible revenu. Nous voulons ouvrir un service de location de costumes avec tout type de vêtements qui peut être loué par un étudiant pour une courte durée pour des interviews. Marcela Outamante dit que cette plateforme va au-delà de la rencontre. Elle renforce pour elle le lien entre les participants de différents horizons culturels avec une diversité de langues. Je pense que c'est vraiment merveilleux de se réunir et de donner à tout le monde la même opportunité de pouvoir se rencontrer, impacter et changer la vie des gens, quelle que soit leur langue ou leur pays d'origine. Samuela, Sophie, Raela et Marcela ont décidé de s'engager dans la mise en place d'un monde unique où la coopération internationale et la paix seront des atouts primordiaux.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.